Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du langage de programmation Rust avec Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy.
Bonjour. Moi c'est Geoffroy, je viens du monde Rust, j'en ai fait depuis sa sortie publique, environ 2013-2014, et du coup je suis bien content de venir en parler.
Pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Et Paul Amar.
Et bonjour.
Alors, Geoffroy, quelles sont les problématiques de sécurité qu'on rencontre de façon traditionnelle avec les langages classiques et qu'on va adresser avec Rust?
Alors, d'un point de vue purement sécu et vraiment s'adressant à la mémoire, ce que Rust vise, c'est les problèmes sur les buffer overflow, les use after free et les data race. Donc, c'est des problèmes qu'on a beaucoup rencontrés en C. Donc, le buffer overflow, le grand classique des failles des années 90 et qu'on retrouve encore assez récemment dans certains softs.
Alors, tu peux rappeler ce qu'est un buffer overflow?
Oui. Donc, le buffer overflow étant quand le programme va écrire au-delà de la mémoire qui est allouée, par exemple, pour une chaîne de caractères et écrit dans d'autres bouts de mémoire qui ne devraient pas. Et si par là, par exemple, on se met à réécrire par-dessus une adresse, un pointeur quelconque, et qu'on peut écrire ce qu'on veut dedans, tout d'un coup, il peut se passer des effets très rigolos dans le programme, comme l'envoyer faire exécuter du code là où on veut.
Donc par exemple, on attend une chaîne de caractères de 32 caractères, et puis l'utilisateur envoie 1024 caractères.
Et voilà, et tout d'un coup, on se retrouve à réécrire une adresse de retour qui pointe vers du code exécutable et on fait réécrire ça vers ce qu'on veut. Et énormément des failles qu'on a depuis les années 90 sont basées sur cette idée de pouvoir écrire à un endroit où on n'a pas le droit. Et donc Rust partait d'un certain nombre d'idées sur la gestion mémoire en se disant mais pourquoi est-ce qu'on s'embête à gérer la mémoire à la main et on fait des erreurs comme ça à chaque fois alors qu'on pourrait laisser le compilateur prendre des décisions. Et donc à quel point on peut pousser l'idée. C'est-à-dire qu'on avait les langages à garbage collection, donc c'est-à-dire qu'on ne gère pas la mémoire soi-même, et on alloue dans tous les sens, et à un moment, il y a une partie, un programme qui va passer sur la mémoire et effacer ce qui n'est plus utilisé. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas avoir un compilateur qui fait comme on faisait en C? C'est-à-dire que, tiens, là, on va allouer de la mémoire avec un malloc, et là, quand on n'a plus besoin, on a free, on va libérer la mémoire, et bien pourquoi on n'aurait pas le compilateur qui décide exactement quand on libère la mémoire et qui s'arrange pour noter tous les cas et ne pas en oublier un seul? Il apparaît que c'est possible, que le compilateur a un petit peu plus de travail à faire que dans un compilateur C, mais qu'on arrive à faire des programmes viables et que tout d'un coup, ça ouvre plein d'usages parce qu'on a beaucoup moins de problèmes dans la manière de coder.
Mais alors, quand tu dis « on », tu peux préciser quelles sont les origines de Rust? Qui a eu cette idée au départ? Parce que des langages un peu safe, il y en a eu avant. Je pense à Ada, qui était très utilisé pour la programmation de satellites, par exemple.
Oui, bien sûr, et qui est encore très utilisé d'ailleurs. Rust, c'était à la base un projet, un hobby de Graydon Hoare, qui était un développeur chez Mozilla, et qui a travaillé là-dessus pendant des années, qui testait des nouvelles idées sur les compilateurs, et notamment, je crois, c'était l'utilisation de type affine. Il ne faut pas me demander ce que c'est, je saurais pas expliquer. Mais qui se servait de ces théories-là pour voir comment ils pouvaient traquer les allocations mémoire d'un bout à l'autre d'un programme. Et en présentant ça aux gens de Mozilla, a réussi à obtenir des financements, une équipe et des gens pour travailler dessus. Et l'une des idées sous-jacentes du langage, c'était de servir de base pour un nouveau moteur HTML qui s'appelait Servo, dont le but était l'intégration à terme dans Firefox. Donc ils ont travaillé là-dessus pendant quelques années, ils ont fini par publier, donc c'était aux alentours de 2013, qu'ils étaient en train de travailler là-dessus. Et petit à petit, des gens comme moi se sont jetés sur le langage en se disant « Eh, mais c'est super intéressant, faut absolument qu'on fasse ça ». C'est-à-dire que moi, à l'époque, je faisais encore beaucoup de C et de C++, et je commençais à voir les limites de mes capacités. Hein. J'adorais ça, mais j'étais quand même pas très bon à éviter les failles. Et je cherchais vraiment quelque chose qui me permettait de coder plus bas niveau, mais en étant un peu plus sûr de ce que je mets en prod. Et en fait, ce langage, il n'était pas encore prêt, il y avait encore plein de trucs qui étaient mal fichus, mais il y avait vraiment une promesse, quelque chose d'intéressant et qui valait le coup de tester. Et donc, depuis ces années-là, en fait, ça s'est énormément développé.
Et tes premiers pas, justement, en fait, Geoffroy, avec Rust, comment ça s'est passé? Parce que souvent, on peut voir des personnes qui se disent « Bah mince, je me suis fait crier dessus par le compilateur, jusqu'à ce que finalement ça compile. » Ouais, quels sont tes premiers pas, typiquement, avec Rust? Et quid de la learning curve, on va dire finalement, tu vois, la courbe d'apprentissage, est-ce que tu as trouvé ça difficile ou pas?
Alors, la learning curve que j'ai eue ne sera pas celle de quelqu'un qui apprend le Rust maintenant, parce que j'ai pas appris sur le même langage. Il y avait des bouts de la syntaxe qui n'existent plus maintenant. Le gestionnaire de paquets cargo n'existait pas. On savait même pas encore, on compilait avec des makefiles. Enfin, c'était quelque chose de très brut. Et en fait, maintenant, il y a de l'outillage qui est beaucoup, beaucoup plus sympathique. Mais effectivement, ce que tu dis sur « Ah, je me suis fait crier dessus par le compilateur », c'est quelque chose d'intéressant. Quand on vient de langage comme le C, on est habitué à mieux savoir que le compilateur, globalement. Peut-être qu'on en sait mieux, peut-être pas. Mais généralement, le compilateur dit quelque chose et on va décider qu'on n'est pas d'accord et on va corriger le code pour montrer au compilateur qu'on sait. En Rust, il y a plein de sous-cas, de problèmes vraiment très limité que le compilateur va voir et qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que une expérience qu'on avait assez régulièrement au début, c'était des gens qui se pointaient sur les salons de discussion et commençaient à râler sur les développeurs du langage pour dire « Mais là, mon code, il devrait compiler, je le fais en C, je sais que ça marche. » Et à chaque fois, les développeurs du langage répondaient « Bah oui, mais en fait, il y a un cas auquel tu n'as pas pensé, ou si tu as 10 threads en même temps qui s'exécutent et tu fais ça à tel endroit, et ben tout d'un coup, ça va écrire de la donnée pas comme tu veux. » Et à chaque fois, c'était des cas très très alambiqués que le compilateur était capable très rapidement de repérer, mais qu'un développeur ne verra pas forcément. Et ce qui ressort de l'expérience, en fait, d'avoir ce compilateur qui va chercher toutes les erreurs, c'est que tout d'un coup, pourquoi je m'embêterais à essayer d'être plus malin que le compilateur, à essayer de savoir avant lui ce que je dois écrire. On peut plutôt se reposer dessus et se dire bah je vais écrire du code qui ressemble globalement à ce que je veux faire et je vais essayer de laisser le compilateur me pointer tous les endroits où il y a des erreurs, toutes les choses qui ne vont pas, toutes les choses que je dois corriger. Et en fait, ça libère l'esprit pour se concentrer sur le code plus métier, qui est plus intéressant, plus important, et toutes les parties vraiment où je pensais apporter de la valeur avant parce que j'avais mes connaissances de développeur C, bah finalement, j'ai un outil maintenant qui me les fait et qui me les fait bien. Donc, j'ai gagné en productivité, en fait.
Ok, alors avant de continuer à évoquer les particularités de Rust, tu parlais de deux autres problématiques que Rust peut adresser. Quelles sont-elles?
Et donc, sur les use after free, bah, Rust a introduit des mécanismes de gestion de mémoire comme le borrowing, donc savoir qui à une référence vers la donnée, à quel moment, est-ce que cette référence est mutable ou immutable, et qui, par exemple, les mécanismes de move, qui permettent de dire, tiens, la donnée, elle est passée de telle à telle variable, maintenant telle autre variable ne peut plus l'utiliser. Le compilateur a plein d'astuces comme ça pour savoir à tout moment qui a accès à la donnée. Et donc, au moment de désallouer, bah, en fait, il va mettre l'instruction désallocation au moment où il sait que plus personne n'utilise la mémoire.
Et donc là, juste pour bien comprendre, Geoffroy, c'est vraiment au moment de la compilation ou c'est au moment du runtime où là, typiquement, notre programme, il peut crasher?
C'est purement à la compilation. En fait, le langage sait insérer les instructions de désallocation exactement au bon endroit. Alors, on peut avoir des mécanismes au runtime. Par exemple, si on fait du reference counting, c'est-à-dire qu'on a on a une espèce de boîte dans laquelle on met notre donnée et à chaque fois qu'on la clone, qu'on donne accès à quelqu'un d'autre, eh ben on a un petit entier qu'on incrémente pour dire tiens, il y a une personne de plus qui l'utilise. Quand ça retourne à zéro, ben là on désalloue. Ça, c'est des mécanismes qu'on a dans tous les langages. Mais sans utiliser ça, on va avoir le compilateur qui va aller insérer exactement partout les instructions des allocations au bon endroit. Et on a des mécaniques qui sont hyper intéressantes qui apparaissent à partir de là. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend une référence vers un bout de données, une référence immutable, ben déjà, en fait, le compilateur va garantir que on peut passer cette référence à plein de threads différents, parce que tant que la donnée est récupérée de manière immutable comme ça, ben n'importe qui peut y accéder, parce qu'on sait que personne ne va y modifier, donc c'est suffisamment sûr, on peut faire ça. Mais alors du coup, on se retrouve avec des programmes où, au tout début de l'exécution du programme, on va peut-être, par exemple, charger la configuration, quelque chose comme ça, et se le partager dans tout le programme, par référence, partout, sans même s'embêter de savoir qui a cloné quoi ou autre, parce que on sait que ce sera dès le bon moment. Et donc, on a des bouts de programmes qui se partagent dans tous les sens et qui n'utilisent que très peu de mémoire parce que on sait que on partage une référence vers quelque chose qui est encore vivant. Donc, on a des fonctionnements comme ça qui apparaissent qui sont très très intéressants.
Et donc, la troisième problématique ?
Donc, la troisième problématique, c'était sur les data races. Donc, plusieurs bouts de données qui essaient d'accéder, plusieurs bouts de threads qui essaient d'accéder à une même donnée. Et en fait, il y a un mécanisme principal, en fait, qui est le mutex. Le mutex, c'est ce qu'on gère pour les threads, mais on peut avoir ça au niveau de l'accès de la référence à la donnée directe. C'est-à-dire que je parlais de référence immutable ou mutable. Quand on a un accès immutable, on peut pas modifier la donnée. En fait, on peut avoir autant d'accès qu'on veut en même temps. Quand on a un accès mutable, il n'y a qu'un seul morceau de code, qu'un seul thread, qu'une seule variable qui peut avoir cet accès-là. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir à la fois une référence immutable et une référence mutable à la donnée. Et ben ça, c'est par exemple, c'est ce qui permet de dire, tiens, mes références immutables, je peux les partager entre threads. Et ben, Rust va apporter des garanties comme ça dans tous les sens. Il va pouvoir dire, par exemple, tiens, cette donnée-là, maintenant, elle appartient à tel thread. Maintenant, c'est tel thread qui a accès en mutable ou pas. Et en fait, tout ça, on a toujours des mutex, des sémaphores et autres, comme dans tous les autres langages, mais dans plein de cas, en fait, on va même pas se poser la question de qui a accès à quoi, parce qu'on peut juste passer de la donnée d'un thread à l'autre sans se poser de question de, par exemple, qui va désallouer. Ben, c'est pas compliqué, c'est celui qui possède la donnée qui va le désallouer. Sauf que tant qu'il y a des threads qui ont une référence dessus, ben, on peut pas désallouer. Et tout ça, c'est le compilateur qui va le garantir.
Alors, et donc, ce qui est curieux, c'est que Rust a la réputation d'être un langage complexe, et en t'entendant, j'ai l'impression que c'est plus simple.
Alors, c'est comme dans tous les langages qui ont des solutions un peu avancées. C'est par exemple, en Haskell, vous trouvez des gens qui vont écrire du code de l'espace, vraiment, qui vont partir dans les choses les plus avancées en maths, et vous allez trouver des gens qui vont écrire du code qui est très simple, vraiment que n'importe qui commençant le langage pourrait écrire. Ben, en Rust, c'est pareil, il y a des gens qui vont extrêmement loin de faire du type level programming, des choses comme ça. Ben, moi personnellement, je ne m'embête pas à ça, je veux du code qui est simple et bête parce que faut que je puisse le relire, hein, tout simplement, et faut que d'autres gens puissent les relire, faut que je puisse former des juniors dessus. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est pas du code qui gère la complexité, mais on peut écrire aussi simple qu'on veut.
Et Rust, là, avec ton expérience, est-ce qu'il n'y a pas un deuxième langage un peu là-dessus ? Parce que là, on parle effectivement de tous ces mécanismes qui nous permettent de gérer finalement toute cette corruption mémoire et d'enlever des classes de vulnérabilité entières. Donc c'est assez incroyable. Est-ce que tu as déjà utilisé le unsafe, le Rust unsafe ? Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est ?
Alors ça, c'est vrai que c'est une partie très intéressante de Rust et généralement, on n'a pas à y toucher. En fait, Rust, effectivement, on a cette espèce de monde bien balisé où tout va bien et tout est garanti par le compilateur. Mais il y a des fois où on a besoin de faire un truc crade. Et par exemple, c'est interagir avec du C. Parce que on doit appeler une bibliothèque qui a été écrite en C. Et on doit faire des choses comme ça. On doit interagir avec le système. Et ben, à ce niveau-là, effectivement, on n'aura pas forcément le même fonctionnement. Eh ben, on a une annotation qui est l'annotation unsafe et puis on ouvre des accolades. Et en fait, à l'intérieur de cette accolade, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Mais on fait pas vraiment tout ce qu'on veut. Ce que unsafe veut dire, c'est un contrat entre toi et le compilateur qui va dire, OK, il y a un certain nombre de règles que le compilateur garantit. Bah, c'est toi qui vas les garantir cette fois-là. C'est toi qui vas suivre les lois qui doivent se passer là-dedans et qui va t'assurer que le code fonctionne correctement. Et comme il y a plein de moyens de se planter, de la même manière qu'on écrirait dans d'autres langages, et ben, on s'arrange pour que ces parties-là soient les plus limitées possibles. Mais effectivement, il y aura toujours des endroits où on doit interagir un peu avec d'autres choses, et c'est obligé. Donc, on s'arrange pour faire une couche qui est très très facile à repérer, très facile à auditer, c'est-à-dire que si je prends un nouveau programme et que je cherche des unsafe, ben, je vais trouver directement tous les endroits où on fait ça, et je sais que c'est cela que je vais avoir à auditer directement. Le reste, si la partie unsafe a été validée, le reste du code devrait être correct. Donc c'est quelque chose de très puissant.
Il n'y a pas que unsafe, il y a aussi des initiatives pour faire de l'interop avec des librairies en C et en C++, parce qu'il y a plein de choses comme libjpeg et autres, où on est obligé d'utiliser le code écrit, enfin la librairie écrite en C pour pouvoir décoder, parce qu'elle contient tous les quirks, des fonctionnements non documentés qui seront difficiles à réimplémenter dans une autre librairie, par exemple. Donc la partie interop avec C++ est quand même importante.
Bah, c'est ça, et elle est faite à grands coups d'unsafe, justement.
Ça va pas un peu plus loin que ça? Il n'y a pas des tentatives de standardisation, justement, un peu comme Swig avec Python, des choses comme ça?
Alors oui, effectivement, il y a des... Il y a des bibliothèques qui permettent, bah déjà pour un bout de code en Rust, d'exposer une interface utilisable par le C, parce qu'il y a aussi dans ce sens-là. C'est très facile en fait de prendre du Rust et de faire une API qui ressemble à du C et qui peut être qu'on peut lier dans un programme en C ou dans d'autres langages. Et effectivement, il y a par exemple de l'interop avec C++, où on vise un moyen pour que les deux langages puissent communiquer facilement. Il y a ça pour du Python, il y a ça pour du Ruby, du Java. Et à chaque fois, c'est effectivement ouais, toute la couche qu'on ferait, que ces langages feraient avec du C, bah on réutilise ça côté Rust et on fait une interface qui permet de passer par exemple du Ruby au Rust sans voir de C au milieu, sans voir la partie unsafe parce qu'on sait faire les traductions de l'un à l'autre.
Parce que j'avais un peu une expérience avec Krubit, qui est une des tentatives, des propositions actuelles pour faire ça, quoi. Aujourd'hui, d'ailleurs, au niveau de l'écosystème, ça se présente comment? C'est-à-dire que si je veux faire, du HTTP2, du gRPC, etc., est-ce que toutes les librairies majeures sont disponibles en Rust?
Alors, il manquera encore des choses pendant quelques temps, mais maintenant, on a de quoi être productif dans beaucoup de domaines. Et par exemple, sur le HTTP, on a les bibliothèques Hyper, qui permet de faire du HTTP, HTTP2, et je crois qu'il y a une partie support HTTP3 aussi. On a du gRPC avec Tonic, du coup on a du Protobuf avec Prost. On a accès à beaucoup de choses sur tout ce qui est développement back-end. Après, dépendant des domaines, on n'a pas accès à tout. Par exemple, dans le jeu vidéo, il y a un certain nombre de frameworks de développement de jeu, mais on n'a pas forcément toutes les bibliothèques qu'on veut. En IA, c'est encore un petit peu limité. Ça va dépendre vraiment de ce qu'on veut faire. En développement front-end, ça existe. Par exemple, on peut faire un front-end en WebAssembly avec Vue. C'est très sympa, mais c'est pas les développeurs front-end vont pas forcément en faire non plus. Donc il y a de tout, mais régulièrement en fait on tombe dans des trous, des choses qui sont pas encore faites. Donc il y a encore la place pour les développeurs open source un peu ambitieux de se faire leur trou, quoi.
Et en termes de performance, ça situe où Rust comparé à d'autres langages que t'as pu tester?
Alors il y a une espèce de mème sur Rust, sur le blazingly fast qu'on voit dans tous les nouveaux projets qui disent ah c'est beaucoup plus rapide que tel autre. Bah c'est qu'en fait on arrive à avoir une performance qui ressemble à celle du C sans trop se fatiguer. Donc c'est bien, c'est facile et on peut montrer facilement qu'on aura du code qui est plus rapide que du JavaScript ou du Python. Mais à un moment, effectivement, quelqu'un qui optimisera beaucoup plus dans tel ou tel langage pourrait avoir des performances qui ressemblent à celles du Rust. Mais l'effort à fournir pour optimiser du Rust est, je trouve, beaucoup moins important. C'est que, par exemple, si je veux faire des bricoles pour faire le moins d'allocations possible et partager le plus de mémoire possible entre différents threads, ben en C, je sais que je galérerais bien à faire ça, à bien optimiser ça en rendant ça safe. Bah, en Rust, je vais essayer, je vais voir si le compilateur me laisse faire. S'il me laisse pas faire, bah tant pis. S'il me laisse faire, bah peut-être que j'ai obtenu une optimisation gratuitement.
Et sur, on va dire, vraiment toute la partie usabilité, etc. Tout à l'heure, Nicolas te demandait les packages standards. On est sur un langage qui est cross-plateforme, c'est-à-dire tu peux compiler et derrière tu peux le runner sur n'importe quelle plateforme. Ça marche comment un petit peu l'expérience développeur?
Alors on passe en fait beaucoup par Cargo, qui est le gestionnaire paquet de Rust. Donc en fait Cargo est capable de créer tout un projet, de gérer le téléchargement des dépendances. Donc on a notamment le site crates.io qui contient la liste des paquets publiés par quasiment tout le monde. Donc Cargo va gérer ça, Cargo va gérer la compilation en appelant le compilateur Rusty derrière et permet de publier sur crates.io, de créer des binaires. Derrière, on peut avoir plusieurs environnements Rust. Donc on a RustUp qui est un outil qui permet de décider, tiens, je veux la version Rust stable, je veux la version nightly, donc vraiment celle qui est encore purement en développement. Je peux télécharger une version d'il y a 1 ou 2 ans si je veux exactement. Par exemple, j'ai des projets où je garde une vieille version de Rust parce que je veux m'assurer que le projet compile toujours sur cette version-là. Donc on peut faire ça et on peut faire effectivement de la cross-compilation. Donc Tout ça, c'est basé en fait en dessous sur LLVM, parce que Rust emploie énormément LLVM et il y a eu beaucoup de travail entre les deux projets pour s'assurer que ça tourne bien. Et du coup, les plateformes supportées par LLVM, bah la plupart vont fonctionner en Rust. Alors il y aura toujours pour certains CPU, il y aura le support sera pas forcément parfait, mais la plupart des plateformes connues, que ce soit les Intel, AMD, ARM, PowerPC, etc., ça va généralement être plutôt bien supporté. Alors, si on veut faire un petit peu d'embarquer, généralement ça se passe bien, mais des fois on aura peut-être besoin de créer la couche d'abstraction avec le hardware.
Au niveau supply chain attack, là tu parles de cargo, crates.io, etc. Mais aujourd'hui vous avez des Bitcoin miners dans les packages ou il y a des typos, enfin comment c'est géré?
Alors on se repose beaucoup sur le projet RustSec, en fait, qui recense toutes les vulnérabilités qu'on peut trouver dans des projets Rust publiés. Et derrière, on a des outils comme CargoDeny qui vont permettre de dire « Ah, mais attention, là, tu peux pas compiler ton projet, là, parce que tu utilises telle dépendance qui a une faille, et donc il faut la mettre à jour avant de republier. » Donc ça, c'est un truc sur lequel beaucoup de gens se reposent, et notamment, derrière, on voit des outils de SBOM qui se reposent sur le cargo.log, sur Rust. Donc cargo.log, c'est ce qui retient la liste entière de toutes les dépendances d'un projet avec un hash de chaque dépendance, etc., pour vraiment être sûr que c'est celle qu'on veut. Enfin, derrière, on a plein d'outils qui vont consommer ça et pouvoir s'assurer que, tiens, mais lesquels de mes programmes Rust nécessitent une update maintenant?
Ça, du coup, dans ta CI/CD, c'est-à-dire tu peux arriver à intégrer un stage pour te dire, bah voilà, tu me fais mes validations, tu scannes justement toutes les libs que j'utilise et tu fails le build s'il y a une librairie qui contient une vulnérabilité critique, par exemple?
Oui, dans mon boulot, donc moi, je travaille chez Apollo GraphQL, donc une entreprise américaine qui fait de la fédération d'API, et on a un proxy en Rust, qu'on appelle le routeur, et ce proxy, il y a une étape essentielle de la CI, c'est l'une des premières, c'est est-ce que j'ai des interdits comme ça parce qu'il y a une dépendance qui a une faille. Et donc, on va pas pouvoir publier une version si on sait qu'il y a une faille, et voire même si on sait qu'il y a quelque chose qui a été publié, qu'il y a une faille qui a été annoncée sur une des dépendances, on va publier un correctif très rapidement du routeur parce que derrière on a toute notre CI qui va permettre de le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très intégré dans la communauté, de publier des failles assez régulièrement, d'être très très explicite là-dessus, et du coup les gens sont assez rapides à mettre à jour maintenant.
Et donc là, si on fait juste un petit deep dive là sur les vulnérabilités, vu que finalement Rust a quand même balayé du revers de la main, on va dire, toutes les classes de vulnérabilités autour de la corruption mémoire, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qui reste finalement comme vulnérabilité type qu'on pourrait trouver avec un langage comme Rust?
Alors déjà, on trouve des vulnérabilités qui se retrouvent à l'intersection entre Rust et d'autres programmes. Donc par exemple, je crois qu'on avait eu des choses autour de Zip il y a quelques temps. On a des vulnérabilités au niveau métier. Donc par exemple, il y avait un DOS dans la bibliothèque qui fait du HTTP2 parce qu'il y avait un des types de messages qui n'était pas géré correctement. C'est beaucoup de choses qui sont vraiment à très très haut niveau. Ou ben effectivement, à chaque fois que quelqu'un se sera dit « Eh, mais je peux écrire un bout de unsafe, c'est bon, je suis grand, je vais y arriver », et puis non.
La faille Bad Bad But, elle touchait tous les langages, y compris Rust.
Laquelle?
Bad.
C'est
bad,
la faille but. Avec les points bats sous Windows.
Oui.
Ah oui, elle est récente celle-là.
Oui, c'est la manière dont le shell Windows va en fait interpoler les arguments quand tu... Et en fait, effectivement, tous les langages sont touchés, parce qu'en fait, c'est quand tu fais un os.system de quelque chose, en fait, il y a une interpolation qui se passe qui n'était pas forcément évidente, quoi.
Ouais, je crois qu'elle y était, celle-là, en Rust aussi.
Oui, c'est juste pour citer des cas où même Rust est victime, quoi.
Effectivement, c'est ce que je disais, c'est l'intersection avec l'extérieur. C'est-à-dire que tant qu'on est dans notre joli petit monde Rust, dans notre mémoire, tout va bien. Et dès qu'on doit communiquer avec l'extérieur, tout d'un coup, ça va pas. C'est comme vous avez votre ordinateur, tout va bien dedans, et puis vous branchez ça à une imprimante ou du Wi-Fi, et tout d'un coup, tout s'effondre.
Mais finalement, pourquoi on n'enseigne pas directement aux programmeurs en école d'ingénieur à programmer en Rust?
Alors, il y a des écoles qui s'y mettent. Ça commence à percer, et souvent, en fait, c'est à l'initiative des élèves eux-mêmes. Mais effectivement, ça ça met un petit peu de temps à démarrer parce que il y a beaucoup de cursus qui sont établis longtemps à l'avance et c'est par cycle. Donc,
oui, mais bon, Rust maintenant il est presque vieux. Enfin, je veux dire, on n'est plus comme il y a 10 ans. Là, c'était un risque de partir en Rust pour de l'enseignement. Aujourd'hui, ça ne me le semble plus du tout.
Et c'est les entreprises qui choisissent, Hervé. Si tu es développeur Java ou JavaScript aujourd'hui, tu as 50 fois plus de chances de trouver du boulot que si
tu
es développeur Rust.
Oui, mais
Rust.
Tu pourrais apprendre... Ok. Oui, certes, oui.
Parce que sinon, Rust est vieux. Aujourd'hui, les jeunes, ils font de l'élixir, par exemple.
Mais pour l'exemple, quand moi je suis arrivé sur le marché du travail en 2010, et à l'époque, les entreprises me disaient que C++, c'était les nouvelles technologies.
Non, pas en 2010. Oh là là.
Bah si, parce qu'il y a C++ 17, C++ 21, enfin C++ c'est toujours nouveau. Il y a toujours... À un moment, ils voulaient inclure les WebView dans le standard C++, c'est-à-dire que tu pouvais faire include web et avoir un navigateur dans ton programme en C++. C'est un renouvellement permanent. Et pour revenir sur la supply chain, vous en êtes où au niveau de Trusting Trust? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de compiler Rust en Rust ou est-ce que le compilateur reste C?
Alors oui, le compilateur est ce qu'on appelle self-hosted maintenant. Alors pendant très très longtemps, le compilateur était en OCaml. Et vraiment les tout premiers...
C'est bien ça.
Bah oui, c'était très bien. Ils étaient très contents de bosser en OCaml. Hein. Moi aussi, on dit, bon, ce serait quand même peut-être bien que le compilateur de Rust soit en Rust. Et il en vient des effets assez amusants. C'est-à-dire que, par exemple, quand on cherche, par exemple, la valeur d'entier maximum dans le code du compilateur, genre, là, j'ai un entier, je sais pas, 32 bits, quelle est sa valeur maximale? Et ben, le compilateur, à cet endroit-là, il va écrire, ben, la valeur de l'entier maximal, c'est la valeur de l'entier maximal. Parce que comme le compilateur le connaît déjà, parce qu'il est déjà fait en Rust, ben, il peut aller l'écrire directement. Et en fait, des gens sont amusés à remonter, et ça revient jusqu'au camel, c'est là où la valeur avait été mise en dur, pour pouvoir expliquer au compilateur, tiens, c'est ça la valeur, mais depuis, ça se transmet de compilateur en compilateur.
Et la question est quand même assez pertinente sur la conversion des développeurs. Ça demande quand même une gymnastique intellectuelle, tous ces borrow checkers, enfin, ces emprunts de référence et autres. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un étudiant lambda qui apprend à programmer à l'université, on peut en faire un développeur Rust ou ça demande, ou c'est réservé à une élite?
Alors, on peut. En fait, on a vu que des débutants, des purs débutants en Rust, peuvent commencer à se sentir productifs après un mois à temps complet sur le Rust. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un qui sait programmer, ce sera quand même plus facile, mais voilà, on prend quelqu'un qui débute en Rust, en un mois, on l'amènera à quelque chose d'intéressant, il pourra coder en prod, il pourra faire du code utile très très vite. Ce sera pas forcément le code le plus compliqué du monde, mais le langage permet d'intervenir de manière localisée dans un programme assez facilement. Après, ce qu'on a vu, c'est que souvent les difficultés viennent plus pour les gens qui viennent d'autres langages, parce qu'il y a des habitudes, des façons de fonctionner qui sont peut-être plus difficiles à transmettre. Alors, je parlais tout à l'heure de développeurs C, C++, qui voulaient expliquer au compilateur comment faire. Je sais, j'ai fait pareil, hein, j'étais pas d'accord, et puis le compilateur a fini par me dire « oui, mais bon, non, tu peux pas ». Bah, quand on vient de Java, quand on vient de JavaScript, on peut aussi avoir des façons de faire qui sont pas forcément très adaptées. Donc le langage s'adapte, mais ça peut être difficile de désapprendre certains mécanismes.
Et quid de Python? Est-ce que c'est envisageable de remplacer Python avec du Rust?
Ça dépend de ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que Python, ça reste un langage qui est très très accessible, qui est très dynamique. C'est-à-dire que par exemple, quand on fait des feuilles Jupiter avec du Python, on peut essayer de faire ça en Rust, mais ce sera pas aussi sympa à utiliser parce que c'est pas le même outillage, parce que c'est pas aussi bien intégré.
Oui, en fait, la question c'est quelle est la verbosité du langage, parce que ce que tu fais en 5 lignes de Python, ça prend 200 lignes en C, quoi. Et en Rust, ça prend combien?
Ça dépend. Ça dépend du type de programme. C'est-à-dire que il y a notamment toute une autre structure d'itérateurs en Rust qui sont sympas. Mais par exemple, les list comprehension qu'on a en Python, ben, il n'y a pas ça en Rust. Et j'avoue que c'est quand même super sympa à utiliser. Mais de plus en plus de choses sont plus faciles. Généralement, si on écrivait par exemple du Java ou du JavaScript, le Rust équivalent sera à peu près pareil, peut-être même un petit peu plus concis, dépendant des fois. Du Python, du Ruby, du Perl, ben, quand on est bien dans ses habitudes, ça va être un petit peu dur d'aller dans le Rust des fois.
J'ai une question. J'ai une question sur le futur du langage, puisqu'on dit que maintenant Rust est bien installé, il a 10 ans, etc. Au départ, c'était un projet Mozilla. Aujourd'hui, quelle est la manière dont c'est structuré? Est-ce qu'il y a un steering committee? Est-ce qu'il y a des votes publics? Est-ce que c'est un projet open source? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est contrôlé par 2-3 entreprises? J'ai même entendu dire qu'il y avait un chat au steering committee de Rust. Donc, où est-ce que ça va, tout ça?
Alors, effectivement, il y a eu une espèce de crise de gouvernance il y a quelques années, parce que Mozilla, ayant... Des directions à prendre qui n'étaient pas forcément compatibles avec le langage. À un moment, on s'est dit voilà, fallait mettre ça dans une fondation à côté. De toute façon, c'était un but depuis longtemps que le langage soit indépendant qu'il soit pas dépendant d'une seule entreprise. Et donc, il y a eu la mise du langage, des marques, de tout le travail sous la fondation Rust, qui a du coup un certain nombre d'entreprises à son board. Et des représentants, des steering committees, des choses comme ça, effectivement. Et en fait, un certain nombre d'équipes de développement. Et il y a quand même un fonctionnement qui est plutôt indépendant, même entre le développement du langage et la fondation. C'est-à-dire que la fondation est là, notamment pour défendre la marque du langage. C'est très important qu'il n'y ait pas n'importe qui dise voilà, nous on fait Rust, c'est à nous. Mais les gens de la fondation ne sont pas censés diriger le développement. Le développement, c'est quand même un projet open source, avec un certain nombre d'équipes où il y a des élections, où ils s'arrangent entre eux. Et c'est pas la fondation qui va donner les grandes lignes du langage. C'est vraiment les développeurs, c'est ceux qui travaillent dessus.
Et là, quels sont les gros projets à ta connaissance qui tout de suite utilisent du Rust, qui pour les auditrices, auditeurs, pourraient dire « Ah bah tiens, il y a du Rust qui est embarqué là-dedans ».
Alors, on en trouve dans Firefox, par exemple, dans Chrome, je crois qu'il y en a un petit peu aussi, je suis pas sûr. Chez Microsoft, ils en utilisent à plein d'endroits dans leur infrastructure. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? J'avoue que j'ai un trou.
Le firmware open source de la clé de sécurité hardware fait par Google, qui est en Rust, qui est disponible sur OpenSK, je crois, sur GitHub.
En fait, il y a plein d'endroits où on peut trouver du Rust maintenant parce qu'on a des petits projets qui peuvent s'insérer dedans. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut faire un bout de Rust qui ressemble à une bibliothèque en C. Par exemple, le projet Curl, donc le client HTTP, peut utiliser Hyper, la lib HTTP Rust, comme backend.
Ok, on n'a certainement pas fait le tour, mais est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin?
Sur le mot de la fin, Rust, c'est un langage qui pourrait paraître un petit peu vieux maintenant, mais qui est encore en plein développement. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles choses qui sortent très régulièrement, et il y a de nouvelles idées, de nouvelles avancées qui sont intégrées très très régulièrement dans le langage. C'est-à-dire que on a eu plusieurs époques, on a eu effectivement l'époque où j'ai commencé, où c'était n'importe quoi, puis à partir de 2015, on a eu la 1.0, 2018, c'était vraiment le focus sur la programmation asynchrone. Et depuis, c'est énormément sur l'utilisabilité, rendre les types plus sympas. Et donc, en fait, on est à un moment intéressant pour se mettre au Rust parce que toutes les petites difficultés qu'on avait au début se retrouvent gommées petit à petit. Et on a un langage qui, petit à petit, ouvre plus de possibilités, est plus sympa à utiliser. Donc, s'il y a un moment pour s'y mettre, c'est maintenant, quand c'est sympa, pas il y a 10 ans comme moi, parce que c'était vraiment pas sympa. Voilà.
Bon, bien, le message est passé. Geoffroy, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.